Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. L'État, et ce serait une première, pourrait acheter 16 TGV en son nom propre, 500 millions d'euros, pour sauver l'usine Alstom de Belfort. Vous saluez ce volontarisme du gouvernement ?
Immédiatement, c'est une bonne nouvelle pour les salariés de Belfort. Mais au fond, c'est une opération de rafistolage préélectoral. Le vrai sujet pour un gouvernement, c'est de créer les conditions de compétitivité pour les entreprises. Car nous savons que demain, à Valenciennes, il y aura des difficultés, qu'il y aura des difficultés à Crépin. C'est pas Alstom, c'est Bombardier. Et donc, la responsabilité de l'État, c'est de créer ces conditions de la compétitivité.
C'est
d'ailleurs
sauver
un des sujets de l'élection présidentielle.
C'est d'abord de sauver des emplois. Il y a une volonté court-termiste peut-être, mais une volonté réelle de sauver.
C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle pour les salariés, oui. Immédiatement. Mais pour avoir été ministre du Travail, je sais que sans des entreprises compétitives, sans des entreprises qui exportent, à terme, c'est l'emploi qui est condamné. Mmh. C'est ça la vraie priorité.
Et on ne veut pas vivre au crochet de l'État. On entendait d'ailleurs tout à l'heure à 7h30 un syndicaliste de la CFE-CGC. Vous comprenez sa crainte, mais comment on pérennise le site en quelques mesures ?
Comment on pérennise le site par la diversification ? C'est ce que le gouvernement envisage, mais vous savez, le gouvernement n'a jamais été un bon industriel. Et l'économie administrée, on sait que ça ne marche pas. Donc je dis bonne nouvelle pour les salariés, mais en même temps, si on ne crée pas les conditions de la compétitivité, alors il y aura de vraies mauvaises nouvelles, notamment pour l'industrie ferroviaire dans les temps qui viennent.
Donc vous dites que le gouvernement utilise toujours des vieilles recettes économiques qui ont échoué.
Oui, ce sont des vieilles recettes, et on voit bien que l'État, bien que présent au capital, n'a pas joué son rôle.
Alors, on va évoquer ensemble maintenant la dernière rentrée parlementaire du quinquennat qui a eu lieu il y a une semaine au Sénat que vous présidez. Le gouvernement nous fait reprendre tard et sur des textes d'une importance très mineure, on peigne la girafe. Ironisait ainsi Roger Gérard Schwarzenberg, un socialiste. Il a raison.
Je ne sais pas si on peigne la girafe quand on se fait un projet de loi de finances qui n'est pas sincère, en dit certains, en tous les cas. Quand je regarde ce que dit le Haut Conseil des Finances Publiques, il nous dit jamais nous n'atteindrons ce niveau de déficit par rapport au PIB, 2,7. La croissance ne sera pas de 1,5. C'est Didier Migaud qui le dit. Le rôle du Sénat, ça va être d'établir la vérité sur les perspectives de ce budget. Un budget qui, de toute façon, nous le savons, quel que soit le gouvernement qui sera en place, fera l'objet d'un projet de loi de finances rectificatif dès le mois de juillet.
Mais donc vous allez l'examiner, vous allez le voter, vous allez l'amender, bien sûr.
Le voter, je n'en suis pas certain, mais la commission des finances...
Mais vous allez le ripolliner du sol au plafond, comme on dit.
Ça, je laisse à Roger Schwarzenberg le soin de repeigner la girafe. Lui, il appartient à la majorité. Nous, on va examiner au fond les données de ce budget, et notamment ce que nous dit le Haut Conseil des Finances Publiques ou la Cour des Comptes.
Donc il est mensonger. Oui. Il est mensonger,
il est improbable
budget.
Et mensonger.
Les chiffres sont faux, comme disait Nicolas Sarkozy hier dans les colonnes
d'abord,
du Figaro.
D'abord, on n'a pas provisionné, par exemple, 8 milliards pour EDF ou Areva. Et on ne parle pas des 500 millions pour les rames TGV. Voilà quelques exemples.
Si le budget 2017 est insincère, est-ce que c'est une raison pour se laisser aller au laxisme budgétaire comme le font les candidats de la primaire ?
Vous parlez du problème du déficit. En fait, on est déjà à 4%.
Ouais.
La réalité. Et qu'il n'y aura pas un coup de baguette magique pour revenir réellement et concrètement à 3%. Pour ça, il faut engager la diminution.
Donc vous dites que l'axisme budgétaire, c'est celui du gouvernement actuel, dont vous hériterez si l'alternance
Bien
a lieu.
Bien sûr, on héritera au mois de juin,
ouais.
Si l'alternance a lieu. Et donc, il va falloir se donner une vraie trajectoire, et cette trajectoire, elle passe par une diminution des dépenses publiques, parallèlement à une diminution des prélèvements obligatoires, pour libérer les énergies et permettre aux entreprises de redevenir compétitives. C'est la clé. Je vous rappelle quand même qu'on a 680 000 chômeurs de plus qu'à l'été 2012. Et que tout ça pèse dans des comptes. Et on n'évoque pas la situation de l'UNEDIC qui va atteindre en déficit cumulé des records abyssaux.
Donc vous dites, il faut être évidemment extrêmement discipliné en termes budgétaires. Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, candidat à la primaire, lui entend d'abord vider les caisses, entre guillemets, pour baisser les impôts, avant de faire des économies. Est-ce que c'est cette méthode-là qui est la bonne ou est-ce qu'il faut d'abord réduire les dépenses de l'État avant de soulager les Français ?
Vous avez là quelques petites différences entre les candidats
Votre candidat
à la
François
primaire.
Fillon,
je pense qu'on doit faire faire les deux. Parallèlement, diminuer les dépenses publiques, diminuer les prélèvements obligatoires.
Baisser les impôts des Français ?
Oui.
Tout
de suite.
Et
des entreprises ?
Tout de suite.
Mais immédiatement pour une partie. Mais ce que propose François Fillon, que je soutiens, c'est un effort important. C'est une exigence importante et c'est d'abord de redonner de la compétitivité aux entreprises avant de redonner individuellement aux Français une part des surprélèvements qui leur ont été faits depuis 4 ans et demi.
Alors quelle est la différence pour vous entre le programme de Nicolas Sarkozy qui consiste à baisser tout de suite l'impôt sur le revenu de 10% immédiatement et ensuite d'engager les économies et celle de votre candidat ? Puisque vous dites qu'il faut le faire parallèlement au même rythme ?
Non, pas au même rythme. Il y a une différence de rythme. Il y a une différence. Oui. Si je prends aussi Alain Juppé, lui parle de jouer avec la TVA pour avoir des recettes supplémentaires. Eh bien, les Français se prononceront. Ce que les Français ont besoin, c'est de vérité.
Est-ce qu'il y a de la démagogie fiscale à tout de suite vouloir baisser les impôts sur le revenu ?
Non, il y a un ras-le-bol fiscal dans le pays.
Oui, et donc vous n'y répondez pas tout de suite.
Et ce ras-le-bol fiscal, il va falloir y répondre. Que l'ensemble des candidats, il va falloir le faire au rythme que le pays peut supporter.
D'accord, donc pas tout de suite. D'abord, être discipliné et réduire les dépenses, c'est ce que vous préconisez.
Réduire les dépenses publiques, mais en même temps envoyer des signaux. Et ma priorité, c'est d'abord les entreprises.
Il y a un nouveau débat à droite depuis quelques jours. C'est faut-il appeler les électeurs de gauche à, vous dites, oh, c'est un débat, à venir voter à la primaire.
Alain Juppé
les encourage.
C'est plutôt un débat de médias.
C'est Alain Juppé qui l'a dit le premier, donc ce n'est pas un débat de médias, c'est lui qui l'a lancé. Et ensuite, Nicolas Sarkozy qui a crié au loup. Et vous, vous dites quoi ?
Si la gauche en est là à la fin de ce quinquennat, c'est un peu inquiétant. Je crois qu'il faut qu'elle
d'aller voter massivement à la primaire
faut
de la droite.
Qu'elle se réserve pour la primaire à gauche. Oui. Moi, je suis, entre guillemets, le sage de la commission d'organisation des primaires. Chacun son âme et conscience. S'il se sent prêt à signer la charte des primaires, c'est-à-dire la charte pour l'alternance, la primaire ouverte du centre et de la droite républicaine, eh bien, il le fait.
Mais est-ce que ça peut peser sur l'issue du scrutin ? C'est ça l'enjeu ?
Je ne crois pas.
Vous ne croyez pas. François Fillon est condamné dans les sondages à rester troisième ou quatrième homme. Qu'est-ce qu'il paye, dans le fond ? Est-ce qu'il paye d'être resté 5 ans à Matignon avec Nicolas Sarkozy ?
D'abord, je me sens bien aux côtés de François Fillon. On a cheminé ensemble depuis longtemps. Je pense que c'est lui qui a le projet le plus abouti. On vient d'en parler quand on parle dépenses publiques et progressivité dans la diminution de la fiscalité. Quand il dit la vérité en matière d'emploi public, en même temps, on assiste à une forme de focalisation.
Je comprends bien,
On a encore un mois et demi.
Qu'est-ce qu'il paye aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il paye ? On verra dans un mois et demi. Peut-être qu'il aura effectivement fait une remontée spectaculaire. Aujourd'hui, il paye quoi ?
Il y a une forme de focalisation dans le débat Juppé-Sarkozy.
Le duel est installé durablement.
Et je pense que François Fillon doit s'installer maintenant pour que ça soit autre chose qu'un duel, mais un vrai débat et un vrai choix pour les Français qui adhèrent à la charte des primaires.
Il y a une question qui vous passionne, c'est les institutions, bien sûr, en tant que président du Sénat. Or, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, organise un grand colloque avec notamment François Hollande, jeudi et vendredi. Et c'est lui qui l'a préempté, ce sujet-là.
Vous savez, j'entends déjà un président de la République faire porter la responsabilité de ses échecs sur les parlementaires. C'est trop long, c'est trop lent. En fait, moi,
des textes.
Ouais. En fait, les Français me disent arrêtez de faire des lois. Je vous dis simplement qu'en 25 ans, le journal officiel s'est multiplié par 2 des lois et décrets. Arrêtez de nous compliquer la vie, c'est ça la demande des Français. Mmh. Et je vais vous dire, je vais prendre la loi Macron. Nous partîmes.
Par hasard.
Nous partîmes à 106 articles, nous arrivâmes à 308. Et c'est le gouvernement qui a introduit la plupart des amendements. Et 16 mois après. Il n'y a toujours pas un tiers des décrets qui ont été pris.
C'est la responsabilité de François Hollande ?
Oui, c'est le gouvernement. Les amendements sont du gouvernement.
Mais le gouvernement dit on ne vote pas les lois assez vite. Il le dit, François Hollande,
depuis
2 ans.
Oui, mais parce qu'il a des textes
maintenant.
Pas prêts. Ouais. Il part avec la loi santé. Il a une centaine d'articles. Et on termine à 300. Vous voyez qu'on a un gouvernement qui prépare pas ses textes.
Il n'y a rien à réformer ?
Bien sûr qu'il faut réformer.
Dans
il faut que le gouvernement prépare ses textes. Et là, il y a des propositions très claires. Il faut que ce soit sans doute le secrétaire général du gouvernement qui coordonne la préparation de ces textes. Il faut qu'un texte qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement, on a attendu 2 ans sur la déontologie, eh bien, qu'il tombe. Il faut que le gouvernement ne dépose plus d'amendements pendant un texte sans passage devant le Conseil des ministres. Voilà des exemples difficiles à comprendre pour les Français, mais ça évitera des textes trop longs.
Et les textes fleurissent aussi à gauche pour supprimer le Sénat, ou en tout cas réduire son... Ouais.
En tous les cas, certains fleurissent. Eh bien, je vous le dis, s'il n'y avait pas une assemblée qui repeigne les textes et non pas la girafe, vous auriez encore des textes encore plus mal écrits, encore plus longs, des textes de pulsion. Ce qu'on veut faire au Sénat, c'est aussi écouter les Français. Voilà pourquoi nous allons mettre en place une plateforme d'écoute, notamment des 550 000 élus locaux de ce pays, sur tous les textes.
C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, le président du Sénat.
Les TGV d'Alstom, une bonne nouvelle pour les salariés, mais une opération de rafistolage électoral du gouvernement, vient de nous dire Gérard Larcher. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et je précise que demain, mercredi, 7h45, Emmanuel Macron est l'invité d'Elisabeth. Et il répondra à vos questions dès 8h20 au 3210.